17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Louis Bachou, invité du grand témoin pour l'algie, donc ce magnifique livre, on va vous laisser le montrer à la caméra. Voilà, l'algie, A-L-G-I-E et pas l'Algérie. Pourquoi ?
Eh bien, vous le savez bien, algie est le paronyme d'Algérie et donc l'algie, c'est ma souffrance d'avoir quitté ce pays qui était mon socle, qui était ma culture.
Vous avez toujours mal aujourd'hui ?
Oh oui.
Près d'un siècle après ?
Oui, on a toujours mal, mais disons que maintenant, ce mal me permet d'être créatif et de transmettre. À partir d'un certain âge, la seule raison de vie est la transmission.
Alors, on l'avait vu dans la précédente émission, votre enfance au contact des animaux, vous embrassez les chevaux sur la bouche, vous êtes avec les animaux pendant une dizaine d'années, vous êtes dans l'Ouarsenice, vous êtes né à Alger, et vous êtes, on sait même pas quel jour vous êtes né, mais peu importe, vous êtes né en Méditerranée, et là, vous êtes avec la nature, et vous avez toute cette histoire avec votre père, avec votre mère, avec votre père dont on ne sait pas où il est enterré. Il est enterré à Ussendé quand il est mort, mais après, vous ne retrouvez plus sa tombe. D'origine grecque, d'origine turque, d'origine française, d'origine XYZ, on ne sait pas. Vous êtes un exilé de l'intérieur et de l'extérieur. Et vous avez passé votre vie à essayer de recoller les morceaux ou à essayer de créer un seul morceau ?
Ben, je pense que j'arrive maintenant à avoir un seul morceau. Je me connais mes limites. Je sais ce que j'ai à dire, à transmettre justement, et je m'appelle de temps en temps le cosmopolite. Donc, vous voyez, je sais aujourd'hui que de la diversité de culture qui m'a faite, cette diversité m'a aussi.
Mais justement, à propos de ce mot cosmopolite, est-ce que vous êtes dans le monde ou est-ce que vous êtes hors du monde ? On a l'impression que vous êtes hors sol, que vous êtes constamment en train de faire un numéro d'équilibriste.
Bien évidemment, puisque chacune des branches de ma culture est différente. Je suis avec un tronc commun, mais j'ai une culture grecque, j'ai une culture arabe, j'ai une culture française. Disons que ma langue et ma culture sont principalement, donc le tronc est français, et français occidental. Et je suis maintenant avec une branche qui donne des fruits sur l'Algérie, une branche qui donne des fruits sur la Grèce, car Alexandre le Grand a été aussi un de mes, je vais dire même Aristote, car sans Aristote, il n'y a pas d'Alexandre le Grand. Aristote a été aussi un de mes précepteurs, comme Alexandre le Grand, je me suis payé Aristote comme précepteur.
Alors, Louis Bachou, vous êtes ingénieur des travaux, vous êtes architecte, vous avez passé votre vie à construire des immeubles, des maisons, à occuper l'espace. On a l'impression que vous voulez occuper, concrétiser un espace qu'on vous a enlevé quand vous étiez plus petit.
On me l'a enlevé, en effet. Je suis parti petit blanc, je suis parti du caniveau. Il a fallu que je conquière mon espace. C'est-à-dire mes limites, ce fameux droit aux limites que je définis dans la vision que j'ai du droit des autres. Donc, il a fallu que je le conquière. Mais disons qu'à partir de 20, 24 ans, 25 ans, j'ai commencé à être l'artisan des autres. Quand je dis l'artisan des autres, c'est-à-dire que il faut... Je pense que dans sa vie, nous avons à nous construire et en même temps apporter une pierre au mur collectif, à la maison collective. Et c'est ce caractère de la maison collective à côté de sa maison qui est très important pour moi. Chacune des pierres, j'ai été tout le temps professeur, j'étais à partir de mon retour du service militaire et j'ai commencé à essayer d'apprendre aux employés que j'avais au Cap de Lyon j'ai essayé d'apprendre au travers du CEFAC, Centre d'études et de formation des assistants de commerce, qui étaient les pierres des chambres de commerce et d'industrie. J'étais chargé de cours aussi à l'université Robert Schuman à Strasbourg. J'ai toujours essayé d'apporter et de faire critiquer par ceux qui m'écoutaient mon apport de telle façon à l'embellir et travailler pour les autres.
Et un apport dans lequel ce souci de bâtir était permanent. Vous avez bâti dans presque toutes les métropoles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le nord, le sable comme la chair est blanc, les murs rouges et l'air à des senteurs de houblon blond. Et vous vous définissez surtout comme un méditerranéen, et vous dites, en parlant de vous, parce que c'est un roman autobiographique bien sûr, il préférait évidemment les îles de la mer, mais il préférait évidemment les îles de la mer Méditerranée, dont l'onde a épousé l'homme, où il n'est pas besoin de parler pour savoir qui on est.
Absolument.
Très belle définition, ça. Donc vous savez qui vous êtes.
Je sais qui je suis, mais je suis exilé de ma Méditerranée, cette Méditerranée qui est féconde parce qu'elle a donné, je vous rappelle, la démocratie, les monothéismes, les civilisations occidentales, mais en plus, elle donne très rapidement le goût de la nature. Elle a un champ. La Méditerranée est notre continent liquide dans lequel nous devons nous planter, car la Méditerranée appartient à tous et contrairement...
Et la Méditerranée, vous l'appelez un peu plus loin dans votre livre, notre pays natal.
C'est mon pays natal.
C'est votre pays natal, la Méditerranée.
Et je vous conseille, vous, Méditerranéens, de considérer de plus en plus que cette Méditerranée est notre pays commun.
Alors, et vous militez, on le voit vers la fin du livre, vous donnez des pistes, pardon, excusez-moi, parce qu'il y a trois types d'écriture dans le livre, décidément, et vous dites, vous plaidez pour une Méditerranée des confédérés. Expliquez-nous.
Absolument, mais la Méditerranée, si vous voulez, la Méditerranée, rappelez-vous d'abord que la démocratie est née avant les grands monothéismes. Celui du peuple élu, c'est tout à fait petit, c'est enfermé dans un peuple dit élu. Mais les monothéismes chrétiens et les monothéismes musulmans ont couvert, on dira, une partie de notre hémisphère et parfois une partie de l'hémisphère sud. Aujourd'hui, nous sommes obligés de voir que ce manque de compréhension de la civilisation apporte des guerroiements inutiles. Donc aujourd'hui, nous avons à créer à nouveau ce que nous appelions, nous, la Pax Romana, qui est une Pax tout de même de près de 350 ans. Rappelons-nous Marc Aurèle, rappelons-nous Adrien. Et nous avons vécu une paix méditerranéenne, et nous devons construire à nouveau, un langage méditerranéen qui nous permette de nous comprendre tous et de créer une nouvelle démocratie,
celle
du 21e siècle.
Et dans cette Méditerranée des confédérés, pour vous, évidemment, ça permettrait, entre guillemets, de réconcilier tous ces pays du pourtour méditerranéen qui se sont, à un moment donné ou l'autre, fait la guerre. Donc, d'une certaine façon, vous êtes dans le sillage à la fois de René Dumont et de Fernand Braudel, et vous plaidez pour cette Méditerranée écologique, environnementale, de mobilité, de circulation.
C'est le plus... Et
ça permet de réconcilier tous les antagonismes.
Mais absolument, mais c'est un bassin tout petit, la Méditerranée. Et autour, nous avons 25 pays environ, enfin, entre 20 et 25, tout dépend si on les bénit tous. Donc, aujourd'hui, nous représentons plus de 10% de toutes les nations qui sont à l'ONU. Et nous devons, parce que nous avons un devoir en face de la culture que nous a donnée la Méditerranée, nous devons reprendre cette paix et faire une nouvelle paix méditerranéenne, une confédération des espaces méditerranéens au travers non plus d'une démocratie marchande, mais une démocratie spirituelle, celle de l'esprit, et l'esprit méditerranéen. Qui est quoi ? Qui est, quand vous arrivez dans la maison d'autrui, eh bien, on appelait ça l'hospitalité. On vous donne à manger, on vous donne à dormir. Et je peux vous le dire, je suis parti d'Alger à 16 ans, je suis arrivé à Thessalonique, en Grèce, à 16 ans, et j'ai vécu de l'amabilité, et je vais dire, plus que l'amabilité, le respect que l'on avait pour moi, qui tentait de rejoindre une partie de ma famille oubliée.
Justement, à propos de votre famille, quand vous êtes dans un tête-à-tête avec votre mère, vous dites exactement, il sait qu'il est nécessaire de réussir rapidement pendant cette coupure entre deux périodes, c'est celle dont vous venez de parler, une première brèche dans l'enceinte de son semblant fortifié au cours des ans. Alors vous dites, la tentation de lucidité née le matin avec la clarté mate d'une vacuité solitaire risque en effet d'être encore rejetée dans l'animation tyrannique de l'activité acquise si l'approche d'une clé n'engage son esprit dans le processus stimulant de la recherche. Et là, vous avez votre mère qui vous dit, je ne te comprends pas. Et franchement, moi, Louvachou, moi, j'ai rien compris aussi à ce passage. Donc, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu. C'est compliqué à vous déchiffrer.
Non. C'est finalement très simple. Si vous voulez, vous avez vos racines, et quand les racines ne sont plus là, il faut que vous ayez la capacité de planter vos racines dans le monde et la terre. Aujourd'hui, la terre est ma maison.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Maxime Le Forestier, né quelque part, une chanson qui est un chef-d'œuvre, qui vous va parfaitement. Vous êtes né, vous, sur un bateau, dans une escale. Vous vous rappelez pas quel jour vous êtes né. On vous dit que vous êtes né tel jour. On vous a déclaré tel jour. Et puis, d'origine multiple, méditerranéen de nationalité, je dirais. Ces exils en permanence, ces exils qui vous collent à la peau, cette espèce de définition permanente que vous n'arrivez pas à assumer, et en même temps vous êtes transballotté. Est-ce que vous êtes pied noir? Est-ce que vous êtes algérien? Est-ce que vous êtes français? Dans votre livre, déjà, vous rejetez Gaston Defer, qui méprise un petit peu les gens qui viennent d'Algérie. Vous parlez d'assimilation, d'intégration. Vous dites que ça se fait pas. Et pour échapper à tout ça, Louis Bachou, vous vous faites de plus en plus nomade. Donc vous êtes pour et vous dites la sédentarité tue et vous faites de plus en plus nomade parce que vous refusez qu'on vous mette dans une boîte ou dans une étiquette.
Oui, je pense d'abord que nous prenons l'habitude de ne pas nous construire en chemin. Si vous voulez, nous sommes les fils d'événements, mais nous avons une flexibilité, une adaptabilité qui doit nous permettre de transformer tout événement en une recherche de quoi ? De soi-même et de cette fameuse pierre que l'on doit apporter à la maison des autres. Et nous nous construisons en construisant les autres. Et c'est une définition que nous avons complètement oubliée dans la gestion quantitative de notre société. La phrase que vous donniez tout à l'heure, c'est bien ça, là. La lucidité du matin qui veut que nous nous construisions en construisant les autres et nous adapter aux événements, quels qu'ils soient, et en faire de cet événement une nouvelle richesse. Une nouvelle richesse, quel que soit cet événement. Et deuxièmement, nous sommes dans un système qui veut une activité presque marchande, permanente. Et cette activité est tyrannique et est devenue totalement tyrannique pour les gens, puisqu'ils ne se construisent plus, ils construisent leur portefeuille. Et ça, c'est épouvantable. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans notre société tous ces gens qui ont de l'expérience, mes collègues, vais-je dire, mes compagnons de route, ceux qui ont mon âge, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait des déchets et à partir de 55 ans, on les appelle seniors, on en fait des déchets, alors qu'ils sont le moment, au contraire, de transmettre, d'apprendre l'expérience qu'ils ont eue de la vie et de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui que l'on sait tracer quand on connaît ses limites. Et personne ne cherche à connaître ses limites. Il est bien évident que moi, je ne courrai jamais aussi vite que Mbappé. Mais, par contre, je sais d'autres choses que Mbappé apprendra au cours des ans. Et ça, c'est très important de lui tendre la main pour lui dire « Ce que tu sais, tu le sais ». Et ce que tu sais dribbler, c'est très bien, mais ça, tu es sur un terrain de foot, et dans une vie, eh bien, il va falloir que tu dribbles avec les événements, et cette façon de dribbler avec les événements, je vais te l'apprendre parce que moi, je suis l'ancien, je suis l'ancêtre, et je sais. Alors, et ça, c'est très important.
Donc, on revient, donc je passe la période de rang, il faut laisser quand même les auditeurs pouvoir lire le livre, que je vous conseille vraiment de vous procurer, l'Algie, aux éditions Valencin. Vous dites, votre cœur saigne, votre âme saigne, et vous dites, bien sûr, plusieurs années après l'indépendance, la cicatrice ne se fermera donc jamais. Il s'aperçut que plus le temps passait, plus il ne vivait que d'apparence. Si par l'esprit et les pratiques il était assimilé globalement à la francité, sa chair refusait la géographie agréable du pays et les peuples qui en étaient nés. Et pour s'échapper de ce cadre trop dessiné, pour être tout à la fois lumière et ombre, la force et l'impuissance, la culture et la barbarie, il se fit de plus en plus nomade. C'est magnifique, ça.
Absolument.
Donc là, on arrive donc progressivement aux indépendances. Chez vous, ça bascule un petit peu. Vous dites dans votre livre, je ne pense pas que ce pays soit le nôtre. C'est-à-dire que vous définissez comme un Français. Comme du côté des colons, et des colons d'ailleurs que vous rejetez, parce que vous dites que s'il y a 250 colons qui se sont fait une petite Algérie française à leur sauce, et que tout le reste, finalement, ce sont des pauvres types qui triment comme tout le monde pour gagner leur vie, et ces gens-là qui sont responsables, entre autres, de différents événements, mais vous dites, page 110, je ne pense pas que ce pays soit le nôtre. C'est votre pays ?
Non, si vous voulez, on va prendre l'homme sous ses différents aspects. Le socle de notre culture est celui de l'Algérie. Nous sommes le peuple venu d'Algérie et dans la langue française. La langue française a été notre support, notre squelette. Nous nous sommes bâtis dans nos échanges autour de la langue française. Car ce sont les échanges, rappelez-vous que nous sommes un peuple d'imagination, et que nous sommes donc dans un collectif qui crée des mythes. Et ça, c'est très important. La femme du haut de la montagne n'est féconde que de 20 ans à 30 ans. La femme des rivages et des rivages méditerranéens, notre pays, la Méditerranée, est féconde de 13 ans à 40 ans. Donc cette différence de nature fait que nous sommes, nous, peuple algérien, et que nous nous foutons des nations. Il n'y a pas de nation méditerranéenne, il n'y a qu'un peuple, un seul peuple méditerranéen, qui a grandi dans les époques interglaciaires d'ailleurs, et qui a toujours vécu.
Mais dans votre, au très fond de votre identité, de votre personnalité, là on est autour de l'année 1953-54, et vous dites, il sentait, vous parlez de vous bien sûr, il sentait les événements naître, les massacres de Sétif sont passés, et il refusa d'y participer. Il décida alors d'arrêter ses études, de fuir la ville, de vivre dans la montagne comme à son enfance, pareillement à son enfance. Et alors, il se parla à lui-même. Pourquoi suis-je indécis ? Il faut se battre contre les assembleurs de nuées. Je réclame l'orage et son déferlement dans le temple des pierres, les galeries désertes, les jardins pétrifiés. Je requiers l'orage et l'arrachement des tuteurs appauvris, le souffle du vent et la chute des eaux dans les fissurations des hommes de stuc. La gangue Amof étouffe le pays et s'effrite dans le crépitement des eaux qui coulent rouges. La mer s'arrache de son air pour monter à l'assaut des frontières granitiques et dans la pulsation des efforts écumeux pénètre à la suite du vent en odeur de varèche chez les hommes qui pensent plus loin. Un grand souffle réclame, il faut laver la terre et mettre à nu l'esprit des hommes, quitter le visible pour l'invisible. En fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de ce choix, de ce traumatisme, de cette déchirure, et vous vous réfugiez à la fois dans la montagne, votre corps se réfugie dans la montagne, là où son enfance, où vous avez passé votre enfance, et votre tête se réfugie dans la poésie. Et vous n'arrivez pas à trancher.
Si vous voulez, je pense que nous sommes nombreux. Tous ces peuples qui ont servi de chair à canon, de chair à guerre, de chair de colonisation et de chair de culture, nous sommes tous, dans ce 20e siècle épouvantable, avec nos déchirures, et ces déchirures sont notre noblesse maintenant, c'est-à-dire que nous avons réussi à vivre, et j'en parle à mon âge, nous avons réussi à vivre, et nous avons réussi à vivre pleinement et en transmettant aux autres ce qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire que l'homme, avant d'être marchand et esprit, et deuxièmement, il est sur terre, chez lui.
Alors vous, Louis Bachou, Algérien de terre, on vous retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétane sur Beurre FM.
Louis Bachou, pour ce magnifique livre, tiens, je vais vous demander de le représenter à l'écran. L'Algie, aux éditions Valencin.
Devenu David Reynard.
En fait, c'est une autobiographie, votre livre.
Oui, c'est une autobiographie en employant les trois langages dont vous parlez. D'abord, un langage mémoriel, c'est-à-dire un récit. Deuxièmement, un langage de réflexion, c'est-à-dire une certaine philosophie qui sort de là, qui commence son apprentissage. Et troisièmement, la poésie qui est le meilleur langage de la langue française. Indiscutablement, il y a des morceaux dans la langue française, Saint John Perse par exemple, et je dis qu'il nous faut un grand vent de Méditerranée, un grand vent de mer pour laver toutes les faces de la terre actuellement, car je trouve que lentement nous sommes rentrés dans un monde qui nous fait trembler.
Alors, évidemment, vous êtes issu de cette terre d'Algérie, vous êtes un Algérien de terre, comme vous le dites, et vous dites que, voilà, c'est pieds noirs, donc vous dites, hein, je pense pas que ce pays soit le nôtre, et vous, parlant des pieds noirs, vous dites que ce sont les exilés d'une France qui n'existe plus, qui ne peut plus être leur territoire, ils sont peut-être français de nationalité, Algériens de terre, mais c'est, d'une part, ça n'a jamais été le leur, et ça ne peut plus être le leur. Et vous dites, là, vous faites carrément, vous dites un basculement, quoi. Chez vous, tout bascule.
Absolument. Si vous voulez, je ne crois pas qu'actuellement, nous ayons une vision claire des besoins de l'homme. Je le dis brutalement, je suis toujours très étonné actuellement de voir le manque de substance, ce que l'on appelait la consubstantialité de l'homme avec la nature, ça n'existe pas. Nous faisons actuellement une sorte de foison d'opinion, chacun est dans son opinion, et nous avons perdu notre terre. Notre terre, c'est pourtant celle qui nous est élevée. Le reste, c'est de la littérature. Nous sommes élevés par la nature. Et moins nous sommes dans la nature, moins nous sommes véritablement
Alors,
hommes.
Sur cette terre, Louis Bachou, puisqu'on parle des pieds noirs, j'aimerais citer une phrase de Hossein Aït Ahmed, le grand révolutionnaire qui a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, que vous citez dans votre livre, Hossein Aït Ahmed. Chasser les pieds noirs a été plus qu'un crime, une faute, car notre chère patrie a perdu de son identité sociale. Et il ajoutait, n'oublions pas que les religions, les cultures juives et chrétiennes se trouvaient en Afrique bien avant les arabo-musulmans. Eux aussi, colonisateurs, aujourd'hui hégémonistes. Avec les pieds noirs et leur dynamisme, je dis bien les pieds noirs et non les Français, l'Algérie serait aujourd'hui une grande puissance africaine, méditerranéenne. Hélas, je reconnais que nous avons commis des erreurs politiques et stratégiques. Il y a eu envers les pieds noirs des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers des civils innocents et dont l'Algérie devra répondre au même titre que la Turquie envers les Arméniens. Du temps de la France, pour eux, pour les pieds noirs, l'Algérie, c'était leur paradis. Et donc, cette phrase, évidemment, elle est lourde de symboles.
Elle est essentielle. Elle est essentielle. La France a commis de graves erreurs, dès 1946 d'ailleurs, 45, et l'Algérie de graves erreurs aussi. Nous étions un peuple. Non pas une nation, nous étions un peuple, c'est-à-dire que nous étions enracinés en terre. C'est toute la différence entre le peuple et la nation. La nation, ce sont différentes cultures sous la même civilisation, tandis que le peuple, c'est une construction, et une véritable construction collective. Et j'avoue que nous étions tous dans le bled à manier à la fois des mots d'arabe, des mots de français, et des mots de berbère, car les gens du Mzab étaient chez nous. Et nous avions aussi des mots espagnols, et nous fêtions toutes les fêtes, quelles que soient les religions, parce que c'était le moment où on pouvait se reposer. Nous avons vécu une mixité, et qui était une richesse. Aujourd'hui, la mixité est un conflit.
Alors, Louis Bachou, cette plongée phénoménale au sein de l'Algérie, comme rarement les gens nous l'ont exprimé et vécu, Merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que les auditrices et les auditeurs, plongeront dans ce livre magnifique, L'Algie, aux éditions Valencin. Et pour terminer, une très belle phrase, une phrase de Louis Bachou. Il vivait vulnérable, c'est le titre du chapitre. Et vous dites, les espaces finis arrêtent le regard. Trouvez dans votre cœur l'infini. S'il faut être soumis, soyons le peuple élu de la raison et de l'indicible. Louis Bachou, merci d'être venu. L'Algie, en tout cas, aura marqué votre histoire, notre histoire aussi à tous. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter Ludwig von Beethoven, la 5e symphonie, la musique classique que vous avez découvert à l'âge de 12 ans. Beethoven, qui lui aussi était un poète, qui parlait avec le vent, et qui et dont l'âme était éminemment créatrice. Et on se rappelle qu'il était sourd. Une vie intérieure magnifique. Von Beethoven, la 5e symphonie. Un hymne universel, et c'est si peu dire.
Je vous remercie. Il y a fort longtemps que je n'ai pas parlé avec une telle franchise. Et c'était nécessaire aujourd'hui, car nous commençons aujourd'hui une nouvelle vision que nous allons mettre en pratique. Un certain nombre de personnes à mes côtés, car nous voulons que l'humain et le vivant soient non plus en conflit, mais ensemble.
Merci Louis Bachou, ça c'est une phrase d'un bâtisseur. C'est exactement ce que les bâtisseurs racontent. Vous avez bâti toute votre vie, et là vous êtes toujours en train de bâtir. Merci pour tout ce que vous avez fait, et longue vie à vous Louis Bachou, et vive l'Algie que je souhaite en tout cas à tous les auditeurs de récupérer le plus vite possible. Donc merci à vous d'avoir écouté Grand Témoin, et on se retrouve très bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.